Mes frères et sœurs, vos prières, déjà, c'est une édification. J'ai entendu, j'ai pris le temps attentivement d'écouter les prières. Toutes, je dirais presque toutes, on va dire, centrées sur l'unité de l'Église. Et c'est extraordinaire. Y compris les passages. Ce qui veut dire que s'il y a quelque chose qui est précieux, qu'on doit préserver, c'est l'unité de l'Église. On est tous faibles. Et personne ne peut se vanter d'être fort. Si nous sommes conscients de la faiblesse, alors nous nous soucierons de l'unité de l'Église et nous saurons que le corps dans lequel nous sommes et qui est celui du Seigneur, le corps spirituel, il est précieux. Donc chacun, nous devons avoir notre responsabilité pour préserver précieusement ce corps. Et c'est ce corps-là qu'on va retrouver ensemble quand on ira rejoindre notre Seigneur, quand il viendra chercher son corps, un corps spirituel. Et on passera l'éternité en la présence du Père et du Fils avec une harmonie parfaite de l'Esprit-Saint. Vous imaginez bien que le message d'aujourd'hui est en lien, bien évidemment, à ce que l'Église a vécu depuis une semaine. Et votre, je dirais, humble serviteur, peut-être en était à l'origine. Donc, le message d'aujourd'hui sera en rapport à ce que nous avons pu vivre, ou plutôt l'Église, à ce qu'a vécu l'Église. Mais je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu nous as bénis d'abord par les différentes prières de mes frères et sœurs. Tu nous as montré que tous, nous sommes tous graciés. S'il fallait un jugement, un châtiment, personne de nous ne s'en sortirait indemne. Mais tu as voulu dans ta sagesse te révéler à chacun de nous, nous former dans un corps, nous rappeler chaque jour, chaque instant, que tout ce que nous le vivons par grâce, car tout vient de toi, par toi et pour toi. Merci pour cette communion fraternelle, merci pour cette unité rappelée ce matin, et aide-nous à tenir jusqu'au bout, parce que tu as commencé une œuvre, tu veux l'achever. Eh bien Seigneur, aide-nous à ne pas être un obstacle à ce cheminement. Que nous puissions nous retrouver le jour venu dans la gloire et ensemble, nous passons l'éternité ensemble à te glorifier, à te connaître aussi. En ton sein, mon Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.
Cette semaine, je vous ai adressé un mail assez, on va dire, c'est hier, vous expliquant la situation en toute humilité par rapport à ce que nous avons vécu, sans jugement de valeur. J'ai lu, j'ai écrit, j'ai relu pour mesurer mes mots, pour que chaque mot ne doit pas être interprété autrement que parce que par mes pensées je voulais vous adresser. Je reconnais par là que Jean Darice, je ne te l'ai pas envoyé, pour que tu ne sois pas dans l'ignorance. Quant à Aménie, on a eu un échange en privé par rapport à la situation. Mais quant à l'Église, les membres de l'Église, je vous ai envoyé une lettre assez détaillée pour expliquer la situation. Dont l'objectif principal, si vous l'avez lu, c'est l'amour fraternel, la communion et la préservation du corps. Tout en reconnaissant la faiblesse des uns et des autres. Ça m'a été aussi l'occasion de vous rappeler que votre serviteur devant n'est pas plus élevé que les autres, même le contraire. Je vous ai rappelé que même dans la responsabilité que, à travers vous, le Seigneur a confiée, je ne suis pas tout seul. Je vous ai rappelé que peut-être vous ne le savez pas, qu'une fois par mois, je suis avec le frère Jean-Marie en train de discuter doctrine, vie d'église. À chaque fois qu'il vient à la maison, et des fois on en rigole, des fois on reste jusqu'à 11h minuit, pas toujours, mais au moins 10h le soir, en train de discuter. Et je lui expose mes positions, la doctrine, et pour attendre son positionnement. Je vous ai écrit aussi que les mardis, en général, pas tous les mardis, quand il y a des empêchements, on ne peut pas. Je suis avec mon frère Toby dans mon bureau à l'IUT, prier, lire et échanger. Je vous ai expliqué aussi que j'ai un frère pasteur que je consulte régulièrement. Donc, je ne suis pas dans la nature, comme ça, tout seul, en train de. Donc, j'essaye, à mon humble niveau, d'être interpellé, de me mettre au service, tout en remettant en question tout ce que je peux vous transmettre. Mais la situation qu'on a vécue, encore une fois, je ne vais pas aller dans les détails, m'a encore interpellé au point que je dis, pour préserver l'Église, il faut encore plus. C'est pourquoi j'ai proposé au Conseil, et ils sont d'accord, qu'il y aura encore un Conseil élargi, c'est-à-dire chaque trimestre, c'est-à-dire 4 fois par an, et ben le Conseil de l'Église, et je vais inviter mon frère Toby à s'y joindre, parce qu'il apporte la parole aussi, une fois par trimestre, et ben nous allons consacrer un moment avec notre frère Jean-Marie, quand il viendra. Comme ça, on pourra exposer nos différends, les problèmes doctrinaux, et ensemble dans la prière, nous pourrons chercher la volonté de Dieu. Mais en plus de cela, j'ai proposé au Conseil de l'Église 2 conseils élargis, et cette fois-ci avec mon frère, qui est pasteur, par son expérience dans le pastoral, nous pourrons peut-être écouter ces conseils, nous n'allons pas obéir à la lettre, mais au moins, nous allons écouter son expérience de cette église, parce qu'il est pasteur, et cette fois-ci, ça sera 2 fois par an. Mais comme ça ne suffisait pas, je vais plus loin. Cette situation m'a permis de revenir vers notre frère et notre père, Victor, pasteur d'ici. Cette situation m'a permis de renouer le contact avec lui. Dès le lendemain, j'ai discuté avec lui pendant presque 1 heure, et il est d'accord que je revienne vers lui quand il y a un problème qui se pose. Vous voyez, le Seigneur, d'une situation difficile, sort beaucoup, beaucoup de choses positives. Grâce à cette situation, j'ai pu personnellement m'humilier et revenir dans la concertation. Mes frères et sœurs, j'étais toujours conduit par une chose, et je le répète. J'ai toujours dit, pour écouter quelqu'un, je dois connaître ce quelqu'un. Dites-moi qui vous êtes, et je vous écouterai. Y compris, la Bible nous donne l'exemple. Pour qu'on puisse écouter les apôtres, nous avons leur témoignage. C'est écrit. Même le Seigneur nous a raconté son histoire avant de parler au niveau spirituel. Prenons le temps de nous connaître, je dis toujours, pour écouter un frère ou une sœur, surtout quand on prend la parole de Dieu. Dieu nous dit, par sagesse, il faut apprendre à connaître. Connaître le cheminement, apprendre à se connaître. Et par la suite, dans la volonté de Dieu, s'il veut qu'on écoute, lui, il ouvre les portes. Mais le savoir n'était jamais une clé pour ouvrir la porte à des frères et sœurs pour parler. Le premier exemple que nous avons devant nous, c'est Jean Daris. On aurait pu lui demander tout de suite, viens Jean Daris devant la chaire et parle, parce que tu as toutes les conditions. Tu es un ancien missionnaire, tu es un pasteur, etc. Et tout le monde aura le droit de lui dire, viens devant mon frère. Je pourrais avoir cette pensée. Mais même là, il faut laisser le temps, il faut laisser le Seigneur, qu'on le connaisse, il nous connaisse. Et si dans la volonté de Dieu veut qu'il participe, alors il parlera à l'Église. Ça, c'est la sagesse. Et je suis ravi du comportement de mon frère depuis qu'il est venu. La première chose, et on a discuté, respecter le lieu où nous sommes. Alors, je me suis dit, quel message je vais partager avec vous ce matin? Alors, j'ai réfléchi et je suis allé dans un blog que je partageais il y a en 2010-2011. Voilà, ça fait 13 ans. Et je suis tombé sur un message qui m'avait parlé. Qui m'avait parlé déjà en 2011. Et je me suis dit, il n'y a rien d'autre, parce que tout le contenu, j'y adhère à 100%. Il vient d'un frère américain qui est encore vivant. J'ai lu son témoignage, j'ai lu ses écrits, vous voyez, depuis le temps. D'ailleurs, ce message-là que je vais vous lire, vous pouvez le trouver sur un site maintenant, mais j'ai vu qu'il était publié maintenant, sur un site qui s'appelle connaîtrechrist.net. Vous le trouverez en entier. Donc, je ne vais pas vous le lire entièrement. Je vais vous lire avec le passage. Vous allez comprendre pourquoi, depuis des années, je fais très attention à ce mélange qu'on peut avoir, le savoir et la connaissance, comme condition pour imposer ses idées. Ce message, le titre, c'est « La révélation est suffisante ». Pourquoi? Dans le milieu chrétien, on a balayé la révélation, parce qu'on dit, comme le Seigneur ne parle pas, alors on va utiliser le savoir. Et on confond révélation et savoir par le frère Chip Brogden. Donc il n'y a pas de secret, vous allez sur le site connaîtrechrist.net, vous le trouvez. D'ailleurs, je vais même le déposer aussi sur notre site, le site de l'Église. Et je vous invite vraiment à le lire entièrement. Et d'ailleurs, s'il y a un conseil à vous donner, encore une fois, chacun fait. C'est un site internet que je vous conseille vraiment, vous verrez. Il y a des témoignages de chrétiens qui sont très parlants, même des messages. Alors voilà, c'est ce que je vais partager avec vous, comme quelque chose qui vient d'un frère, mais qui ne vient pas de moi. Donc, mais en sachant que le contenu est parlant pour tout le monde. La révélation est suffisante par le frère Chip Brogden. Juste entre parenthèses, ce frère-là était pasteur de plusieurs églises pendant des années respectées, connues. Et du jour au lendemain, quand il a eu la révélation du Christ, il était tellement effondré qu'il a tout quitté. Comme l'apôtre Paul. Je pensais savoir. En fait, je ne sais rien. Et depuis, il continue à œuvrer pour le Seigneur, mais différemment. Ce n'est plus lui, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui qui a travaillé. Donc, vous voyez, cherchons à connaître avant d'écouter. Alors, je vous lis. Et je vous invite vraiment à écouter ce qu'il dit. Alors, comme c'est assez long, donc je ne vais pas lire tous les passages, parce qu'il y a plusieurs références bibliques, je ne ferai que les afficher. Mais je lis son texte. Je commence. Une caractéristique des derniers jours, donc je précise que ce texte, je l'ai découvert en 2011, mais maintenant il est, voilà, ça fait 13 ans. Une caractéristique des derniers jours, les hommes ne cesseront d'apprendre, mais malgré cette abondance de connaissances, ils n'arriveront jamais à rentrer dans l'expérience de la vérité. Dans cet âge de l'information qui est le nôtre, l'accumulation de connaissances est fortement recherchée et estimée. Pourtant, il est possible de connaître toutes les bonnes réponses sans jamais parvenir à une connaissance expérimentale de la vérité. Lorsque Simon-Pierre a confessé « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », vous pouvez remarquer que Jésus ne l'a pas félicité d'avoir pu dire cela grâce à de longues études ou de recherches intenses. Comme si c'était cela qui importait. À la place, le Seigneur dit à Pierre qu'il est béni. Non seulement de savoir qui il est, mais aussi de la façon dont il l'a appris. Comment Pierre a-t-il su que Jésus est le Fils de Dieu? Parce que cela lui a été révélé par le Père Céleste. Jésus met ici en opposition la connaissance de chair et de sang avec la vérité qui est révélée par Dieu. Et naturellement, c'est Jésus qui est la vérité. Les deux sont aussi différents que la nuit et le jour. Si nous considérons la connaissance qui vient de la chair et du sang, c'est-à-dire naturelle, obtenue à partir de sources humaines et terrestres, nous pouvons avoir des raisons de nous vanter, de notre capacité d'étudier, de rechercher, de raisonner et de décider. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En revanche, en ce qui concerne la révélation, nous n'avons certainement aucune raison de nous vanter, parce que la révélation est simplement ce qui nous est révélé du ciel par le Seigneur. Nous ne pouvons pas travailler pour l'obtenir, et nous ne la méritons même pas. De plus, aucun homme ne peut nous la donner. Sa source vient de Dieu, travaillant en nous par son Esprit Saint, c'est l'arbre de la vie qui vient en opposition à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si dans notre quête pour la croissance spirituelle, notre intention est de seulement apprendre quelques faits sur la Bible, de glaner des bribes d'informations de ce prédicateur ou de ce professeur, de remplir nos cerveaux de faits et d'accumuler dans nos bibliothèques de plus en plus de livres et de magazines, nous courons le risque de nous tromper nous-mêmes et de penser que nous connaissons et comprenons Dieu. Alors, il se pourrait bien que nous apprenions toujours des vérités sans connaître la vérité. Avez-vous rencontré quelqu'un comme cela? Il semble avoir toutes les bonnes réponses, mais ils sont animés d'un mauvais état d'esprit. Ils s'accrochent désespérément à leurs avis pointilleux et ne peuvent pas être persuadés de voir autrement. Leurs connaissances ne les ont pas changés. Ils se sont enflés, mais cela est vain. La véritable croissance spirituelle est caractérisée par la grâce, non par les œuvres, et une plus grande connaissance de Jésus-Christ. Et nous maintenons que cette connaissance de Jésus-Christ ne peut pas être obtenue par l'étude. Elle ne peut nous être accordée que par la révélation. Alors nous intéressons à la révélation maintenant de Jésus-Christ. Que voulons-nous dire par révélation ? Nous affirmons qu'il n'y a rien en réalité qu'une seule révélation. Il n'y en a qu'une. Et c'est la révélation de Jésus-Christ. Les gens utilisent le mot « révélation » de façon assez vague, estampillant de ce terme chaque nouvelle chose ou pensée qui leur vient à l'esprit. Chaque impression, sentiment, enseignement, vision, voix ou rêve, ils la considèrent comme une révélation. Ils considèrent chaque notion qui traverse leur esprit comme étant une révélation. C'est non seulement dangereux, mais en plus non biblique. Nous disons simplement que Jésus-Christ est la seule chose que Dieu nous révèle. En lui, c'est-à-dire en Christ, sont cachés tous les trésors de la sagesse, de la connaissance de Jésus-Christ. Dieu ne nous donne pas la révélation dans 5, 10, 100 ou 1000 choses. Aucune de ces choses n'a beaucoup de valeur par elle-même. En fait, il a placé toutes ces choses en Christ et il a révélé Christ en nous. Il ne nous révélera rien indépendamment de la révélation de Jésus-Christ. Posséder le Fils, c'est posséder tout ce qui appartient au Fils, parce que les Écritures déclarent « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ?» Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Encore une fois, Dieu ne désire pas nous donner la révélation dans beaucoup de choses, mais il veut nous donner la révélation de Jésus-Christ. En l'appréhendant, lui, nous gagnerons ultérieurement du discernement dans ces choses. Rechercher la révélation dans les choses, indépendamment de la révélation du Christ, ne donne pas au Christ la prééminence. Nous ne devons pas négliger la connaissance de Jésus-Christ pour poursuivre les choses, même des choses spirituelles, parce qu'elles sont toutes résumées en lui. Jésus-Christ est le mystère qui a été caché de tout temps et dans tous les âges, mais qui est maintenant révélé aux saints. L'Ancien Testament, et c'est ce que nous faisons pendant l'étude, la découverte de l'Ancien Testament, en sachant que Christ se révèle à travers l'Ancien Testament. L'Ancien Testament proclame le mystère et prépare la voie pour la révélation de Jésus-Christ. Il est plein de types, d'ombres et de symboles que nous cherchons ensemble à découvrir quand on fait l'étude de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament révèle ce qui a été précédemment caché. Il explique les types, les ombres du mystère et nous donne la révélation comme substance et réalité. Néanmoins, le Seigneur ne se manifestera pas ou ne se révélera pas lui-même à l'ensemble du monde parce que celui-ci, en général, ne l'aime pas ou ne le reçoit pas. Il a donc établi l'Église. L'Église, c'est Christ dans le monde. Ceux qui sont appelés en dehors, c'est le sens même de l'Église. Ceux qui ont reçu la révélation de Jésus pour qu'ils puissent la traduire en témoignage de Jésus, en attestant de ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, Dieu a volontairement caché la connaissance de Jésus-Christ et ne l'accordera par révélation qu'à ceux qui se sont, c'est très important, à ceux qui se seront humiliés devenant comme des enfants. Il est si fondamental de comprendre ce fait que nous le citons ici. À ce moment même, Jésus tressaillait de joie par le Saint-Esprit et il dit. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Je vous laisse découvrir chez vous le reste, parce que même quand j'ai mis un peu de stabilo, c'est ce qui me paraissait parlant. Bien que nous employions beaucoup de mots pour expliquer cela, en réalité, dans l'expérience, ce n'est ni compliqué ni difficile. C'est très aisé, c'est très simple. Cela prend plus de temps pour l'expliquer qu'il en faut pour le comprendre et y prendre part. Fondamentalement, la différence se situe entre apprendre et voir. Ce n'est pas béni sont les esprits qui ont étudié et qui ont appris, pas du tout, mais seulement béni ceux qui ont les yeux qui voient. Pourquoi est-il si vital que nous ayons cette révélation du Christ ? Parce que l'Église que Jésus construit, l'Église se compose de tous ceux qui ont eu cette révélation. Sans cette révélation, nous ne pouvons pas connaître le chemin vers le Père. Et nous ne pouvons pas être membres de l'Église parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Comment pouvons-nous savoir ce qu'est l'Église sans la connaissance de Jésus-Christ ? Et non des choses données par Jésus-Christ. Comment pouvons-nous appréhender le corps si nous ne pouvons pas appréhender la tête et non les choses que la tête donne? Comment pouvons-nous appréhender le corps, si je viens de dire, l'Église n'est pas construite sur Pierre en tant que personne, en tant qu'individu, mais sur tous ceux qui connaissent Jésus-Christ par révélation. Et cette révélation s'offre à chacun de nous. Indépendamment de cela, nous ne pouvons pas faire partie de l'Église, malgré nos connaissances et notre savoir. C'est cela l'Église, ceux à qui le Père a révélé le Fils par l'Esprit. Et le Père veut le révéler à tout enfant de Dieu. Si Pierre était un bon juif, mais un type assez saint, mais un type assez simple. Paul, en revanche, connu auparavant sous le nom de Saul, était un pharisien des pharisiens religieux, dévoué, éduqué, juste selon la loi de Moïse, zélé pour les choses de Dieu et les traditions des Juifs. Pourtant, nous le retrouvons en train de persécuter l'Église de Jésus-Christ, pensant à tort que Dieu était satisfait de lui. Comment est-il possible que Saul, avec ses connaissances, sa théologie, n'ait pas compris qui était Jésus-Christ et pourtant cité dans la parole de Dieu? Simplement parce que cela ne lui avait pas été révélé par le Père Céleste. En fait, ce sont les pharisiens et les autres leaders et enseignants religieux qui ont le savoir, qui ont rejeté le Seigneur et l'ont fait crucifier. Il manquait de révélation. Ils n'ont fait qu'apprendre par cœur la parole écrite. Mais quand ils se sont trouvés en face de la parole faite chair, tout ce qu'ils voyaient était le fils du charpentier, un homme possédé par un démon, un blasphémateur, un magicien. Ceci démontre à quel point la connaissance religieuse de chair et de sang et sans valeur est dangereuse. Un jour, Dieu, dans sa grâce, a décidé d'accorder à Saul la révélation de Jésus. Pourtant, Saul ne recherchait pas la révélation. Il l'a cru après l'avoir déjà reçue. Lui et ses pères avaient conclu que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Saul était donc en chemin pour Damas afin d'arrêter ceux qui suivaient Jésus et les ramener enchaînés à Jérusalem. Combien il était zélé pour la vérité! Sans prévenir, une lumière éblouissante lui est apparue, le jetant à terre, et une voix l'a appelé en disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul a demandé « Qui es-tu ? » Et la voix a répondu « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Christ s'identifie à l'Église. Cela ne prend qu'une millionième de seconde pour que la révélation vous mette à terre. Je me rappelle du moment où j'ai reçu pour la première fois la révélation de Jésus-Christ. J'avais eu beaucoup d'expériences religieuses et spirituelles jusqu'à ce jour. Davantage qu'une personne normale. J'avais été un pasteur et un enseignant pendant de nombreuses années. Je pensais vraiment connaître le Seigneur. Mais un jour, Dieu a révélé son Fils en moi. J'étais assis dans le jardin, en train de lire la parole, et sans avertissement, dans le fond de mon cœur, j'ai vu, pas avec mes yeux, mais intérieurement, j'ai vu Jésus assis à la droite de Dieu. Et je me suis vu moi-même ressuscité assis avec lui dans les lieux célestes. Ce jour a été pour moi comme sortir d'une pièce et rentrer dans une autre. En fermant la porte derrière moi, j'ai eu un aperçu d'un autre monde, alors j'étais convaincu du mien. Avant, je ne savais qu'en parler. Maintenant, je l'ai compris, parce que je l'ai vu. Bien qu'extérieurement, mon expérience soit moins spectaculaire que celle de Paul, un impressionnant tremblement de terre s'était produit à l'intérieur de moi, et mes fondations se sont disloquées. Ce fut le début de la fin de ma carrière en tant que prédicateur pour la religion organisée. J'ai vu le vrai Jésus et j'ai réalisé qu'il ne correspondait en rien à ce que la chair et le sang avaient dit. Alléluia. Quand Saul a rencontré le Seigneur, Jésus n'a pas dit « Pourquoi persécutes-tu mon peuple ?» Avec ces mots simples, il lui a dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Paul a reçu la révélation de la personne de Jésus-Christ et aussi celle de l'Église. Persécuter ceux qui suivent Jésus, c'est persécuter Jésus lui-même. Pourquoi ? Parce que Christ et l'Église sont un. Être chrétien par opposition à connaître le Seigneur. Comment Paul a-t-il appris l'Évangile ? Qui lui a enseigné ? Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par révélation de Jésus-Christ. Quelle phrase merveilleuse! 5 mots apportés par révélation valent plus que 10 000 mots obtenus par la chair et le sang. Chers amis, connais-tu vraiment le Seigneur? Cette connaissance est-elle basée sur la révélation que tu demandes à Dieu à genoux? Ou est-ce simplement ton idée ou ce que l'on t'a enseigné par la chair et le sang? Il est maintenant temps d'examiner ton fondement et de découvrir ce que tu as si tu as été établi sur le roc ou sur le sable. Nous savons maintenant qu'il est possible pour quelqu'un d'effectuer beaucoup d'œuvres puissantes au nom de Jésus et pourtant ne pas connaître le Seigneur. La révélation est la différence entre l'activité religieuse et la vraie connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est tout à fait possible que nous ayons été chrétiens pendant de nombreuses années et que nous n'ayons pas connu le Seigneur. J'avais l'habitude de trouver cela difficile à croire, mais plus maintenant. Je peux sincèrement dire que j'ai été chrétien toute ma vie, mais que je connais le Seigneur seulement depuis quelques années. De nos jours, se dire chrétien est presque identique au fait de s'appeler républicain ou démocrate. C'est devenu plus qu'une étiquette de convenance sociale qu'un vrai témoignage que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, vivant, habitant en moi. Tozer a écrit, je vois et j'entends parler de choses que font les chrétiens, alors que je les observe agir, tout en professant être chrétien, je me pose la question de savoir s'ils se sont vraiment convertis. Dans les années 80, j'avais l'habitude de sortir avec d'autres frères et sœurs en frappant aux portes pour distribuer des tracts. Nous demandions « Êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous sauvé? Êtes-vous un chrétien ?» Mais ces dernières années, ces termes ont été si dilués et sont devenus si vagues que toute personne étant allée un jour dans un édifice surmonté d'un clocher à Noël ou à Pâques peut quasiment prétendre être un chrétien né de nouveau. Mais elles n'ont pas la révélation du Christ. Qu'il soit possible pour nous de faire des choses au nom de Jésus sans le connaître vraiment, ni être connu de lui, devrait le mettre face contre terre devant le Seigneur. Et nous pousser à prier, là c'est très important aussi, et nous pousser à prier pour une connaissance expérimentale de Christ reçue par révélation. Il n'y a aucune autre façon de le connaître vraiment sans la prière, sans un cœur sincère, se mettre à genoux pour lui demander de se révéler à nous. Dieu s'en est assuré. De tout ce qui est prêché et colporté autour du monde, au nom de Jésus, quelle proportion n'est rien d'autre que la régurgitation et la divagation de personnes qui peuvent seulement répéter ce que tous les autres disent? Où est la révélation de Jésus-Christ? Où est l'homme ou la femme qui, refusant de se confier dans la chair et le sang, ne parle seulement de ce qu'il a vu et entendu, expérimenté par le témoignage de la vie, par révélation et par l'esprit? Il y a un océan de différence entre répéter ce que vous avez entendu et parler de ce que vous avez expérimenté. Est-ce si incroyable qu'il y ait beaucoup d'enseignements, mais aucune connaissance expérimentale de la vérité? Si nous parlons de nous-mêmes, alors nous ne pouvons que donner la connaissance. Mais si nous décidons de ne parler que par révélation, c'est-à-dire s'attendre à Dieu dans la prière à genoux, nous pouvons donner la vie. Seule la révélation peut changer une personne. Immédiatement après avoir entendu ce message, certains peuvent être tentés de demander « Que dois-je faire pour obtenir cette révélation ?» La réponse est « Allez à genoux et laissez le Seigneur faire. » La réponse est « Rien !» Parce que tout est grâce. Avec Paul, nous pouvons certainement prier pour un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Christ, que les yeux de notre compréhension puissent être éclairés. Au-delà de cela, nous ne pouvons simplement que faire confiance à l'Esprit pour qu'il nous révèle le Seigneur. Et si nous nous humilions pour être comme des enfants, comme cela nous est demandé dans la parole de Dieu. Dès que nous réaliserons que la révélation est tout ce qui importe et que Dieu est le seul qui puisse nous la donner et non notre intelligence, nous cesserons d'essayer d'impressionner les gens avec notre connaissance, notre façon de parler puissante, ou notre titre. Au lieu de cela, nous nous humilierons et nous demanderons au Père de révéler son Fils en nous. Quand une personne a la révélation du Christ, elle souffrira volontiers et avec une grande joie la perte de toute chose. Une personne qui a la révélation sera prête à volontairement abandonner sa vie pour ce qu'elle a vu. Est-ce notre cas? Il est certain que lorsque vous rencontrez vraiment et réellement Jésus de Nazareth, quand vous le voyez pour la première fois, quand il se révèle à vous, alors vous vous mettez immédiatement à dos ceux qui prétendent voir, mais qui ne voient pas. La plupart du temps, ce sont les religieux et les spirituels, les dénominations et les tours de Babel qui remplissent le paysage de la chrétienté aujourd'hui. Les scribes et les pharisiens de la religion organisée. Combien sont bénis ceux qui voient et entendent le Seigneur? Beaucoup recherchent la puissance, l'onction, les dons spirituels, les titres, les positions, les postes et l'audience. Mais la révélation est suffisante. Si nous avons la révélation de Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin d'autre chose. Si nous n'avons pas la révélation, tout le reste sera inutile. Mes frères et sœurs, mettons à genoux, demandons au Père de révéler son Fils en nous. Là, nous marcherons en Christ. Amen. Je tenais vraiment à partager avec vous, le Seigneur a mis ça dans mon cœur parce que je l'ai relu. Et ça date de 2011. Et j'ai dit, je n'ai rien à ajouter. Je voulais vous le lire. Alors, si vous voulez le texte entier, vous allez sur le site. Sinon, je vais vous le mettre. Que Dieu nous aide et nous éclaire. N'oublions pas une chose. Nous sommes de pauvres pécheurs. Nous rendrons tous compte. Nous avons besoin les uns des autres. Que Dieu nous aide. Amen.